voix nue. Toute cette semaine, Corinne Renoux-Nativelle rencontre Michel Oslo. Ce soir, une nouvelle carrière de lumière et d'ombre.
Bonsoir Michel Oslo.
Bonsoir Corinne.
Nous avons évoqué hier Kirikou. Son succès vous offre la possibilité de sortir en salle une série diffusée 10 ans plus tôt sur Canal+, Cinéci, qui est rebaptisée Prince et Princesse, un théâtre d'ombre sur fond coloré, merveille de poésie et de grâce. Donc à partir de 1989, vous avez réalisé Cinéci en ombre chinoise, inspiré de la réalisatrice allemande Lotte Reiniger. Comment était née cette idée ?
Tout vient du fait que je n'avais pas de fric. Quand j'ai pensé aux silhouettes, c'est que je cherchais à faire des dessins animés, bien que je n'ai pas l'argent pour les faire. Et en étudiant toutes les techniques existantes, j'ai compris que c'était la moins chère de toutes. Mais je l'ai compris grâce à des enfants, et des enfants de Odense, la ville natale de Hans Christian Andersen.
Au Danemark.
Donc c'est les enfants d'Andersen qui me l'ont appris. Je faisais des ateliers d'animation pour les enfants, parce que c'était une de ces époques où les adultes me donnaient pas beaucoup de travail. Et je faisais très volontiers des ateliers d'animation pour les enfants. Et une amie m'a invité plusieurs fois dans cette ville du Danemark. Et chaque fois, j'essayais de changer de technique. Et je connaissais Lotte Reiniger, que j'aimais bien, mais c'était plutôt un précurseur qu'un auteur que je recherche. Et je me suis dit plus ou moins, c'est assez bon pour des enfants. Mmh. Et ces enfants, en une semaine, ils ont fait des choses tellement brillantes, tellement professionnelles, tellement graphiques, et que je me suis dit, je vais essayer de faire aussi bien que les enfants d'Andersen. Et c'est de cette manière que j'ai découvert vraiment, en y touchant, la silhouette noire, qui est un vrai théâtre d'ombre. Il y a de la lumière derrière et par devant, on met des pantins de papier noir et puis toutes sortes d'autres choses. À partir de cette connaissance, j'ai pu, par miracle, avoir un financement pour 8 petits films. J'avais écrit déjà une série d'une vingtaine d'histoires, mais j'ai eu de l'argent que pour 8. J'ai trouvé un producteur sympathique qui voulait bien le produire. Et je suis allé donc dans les Cévennes, à Saint-Laurent-le-Minier, dans la fabrique créée par Jean-François Laguioni.
Un réalisateur que vous aimez beaucoup ?
Oui. Et chez qui, d'ailleurs, j'ai fait Les Trois Inventeurs, parce qu'il avait un bon titre, le moins cher du monde, qu'il a d'ailleurs supprimé après mon passage, parce que aucun autre être humain n'accepterait de l'utiliser encore. Ça se passait dans un petit village, dans un endroit bien installé, mais mon programme de compte en silhouette avait pas beaucoup d'argent. Les autres étaient une des vraies productions bien installées avec tout ce qu'il fallait comme matériel. Et nous étions simplement dans la cuisine et la salle de bain. Mmh. Et les autres étaient dans des grands espaces. C'était une magnanerie. Il y avait des grandes salles très bien installées. Et nous, non. Et c'est nous qui étions les plus heureux. J'avais organisé le travail d'une manière très artisanale, où nous étions 7. Je donnais à chacun décor, storyboard, modèle de personnage, détection des voix et une petite caméra archi simple. Une caméra 16 mm qu'on remontait à la main, qui était fixée sur un bâti de bois avec un zoom. La caméra n'était pas mobile. Et puis quelques plaques de verre et des ampoules achetées chez les boulangères. C'était un petit endroit où la boulangère vendait tout. Le fait que tout le monde avait son histoire, son équipement et sa liberté, faisait que tout le monde était intelligent, efficace et heureux. C'était quand même un pays perdu, mais la seule chose qu'on pouvait faire, c'était travailler, et on aimait ça. Donc on faisait sûrement des longues journées, mais sans s'en apercevoir. Mais tous les jours, on allait se baigner à la cascade, puis on pique-niquait. Et quelquefois l'après-midi, quand j'avais trop travaillé, je montais sur la colline, je me couchais par terre, et je dormais un moment. Mais avant de dormir, je regardais tout autour de moi toutes les fleurs dressées d'une campagne magnifique et les insectes qui volaient autour. Et puis quand j'avais un peu dormi, je redescendais de la colline comme Moïse descendant du Sinaï, plein d'énergie, et ça durait jusqu'à la nuit. À 4 heures, on goûtait sur la terrasse. Et les riches de plus bas venaient goûter avec nous parce qu'ils aimaient bien ça. Et le soir, on dînait sur la terrasse. Et c'était une terrasse avec une tonnelle et des rosiers. Et avec la lumière des bougies, les roses ressortaient extraordinairement. Et tout autour, des rossignols chantaient.
Un très beau souvenir, Michel Oslo. Cinécie, c'est une mise en abîme de votre travail avec un jeune garçon et une jeune fille qui se documentent pour inventer des décors, des costumes et des histoires qu'ils jouent eux-mêmes. Est-ce que vous vouliez donner aux enfants l'envie de jouer, de se déguiser, de créer ? Est-ce qu'il y a ce désir chez vous, Michel Oslo, à ce moment-là ?
Tout à fait. Wow. J'ai été un enfant qui ne s'est jamais ennuyé, qui s'est toujours occupé de quelque chose, qui a toujours bricolé. Et c'était ma meilleure télévision. On n'a jamais eu la télévision à la maison. Et c'était peut-être une bonne chose. Et j'ai vraiment envie de pousser les jeunes générations à s'activer, à créer, à faire quelque chose, et à ne pas s'asseoir passivement dans un fauteuil en face d'un écran. Et c'était un de mes désirs secrets. Et c'est pour ça que je les montre chaque fois, faisant mon métier. Ils se renseignent beaucoup, ils échangent des idées, ils dessinent leurs costumes, et puis il y a un système qui fait que le costume est très vite fait sur eux, et ensuite ils jouent l'histoire qu'ils ont inventée. Mais avant, ils se retroussent les manches et ils travaillent. Ça, c'est une chose. Ce prologue était aussi très intéressant parce que ça semblait résoudre la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est que j'avais envie, et j'en ai toujours envie d'ailleurs, de faire des courts-métrages pour lesquels il n'y a pas de marché. Par contre, il y a un gros marché pour des séries télévision, mais je n'ai pas envie d'en faire. Depuis Gédéon, j'ai plus eu envie de faire des séries. Mais le prologue, où les mêmes trois amis se réunissent, c'est une série. Ça se passe au même endroit, avec les mêmes personnes. On les voit déguisés. Mais une fois que ces personnes sont sur scène, c'est un court-métrage de Michel Oslo. Juste exactement ce qu'il voulait faire. Mais la télévision a bien vu que finalement je leur offrais des courts-métrages, donc ils ont arrêté de commander. C'est d'ailleurs un projet que j'ai présenté deux fois à toutes les télévisions d'Europe sans avoir de réponse.
D'accord, mais Cinécie avait été diffusé sur Canal+, et puis ensuite a eu une sortie en salle grâce au succès de Kirikou. C'est
oui,
bien ça.
C'est du bon travail, fait vraiment avec des bouts de ficelle et beaucoup de plaisir, qui finalement continue à tourner sans arrêt. On a dépassé le million de spectateurs. Les gens n'imaginent pas à quel point c'était
pour
un travail
princesse,
simple.
Princesse, pardon.
Oui.
D'accord.
Prince et princesse, c'est plus d'un million de spectateurs parce que maintenant ça fait longtemps que ça tourne, mais ça continue à tourner. De temps en temps, on le montre.
Et Michel Oslo, vous empruntez à différents univers, le Japon, la Chine, l'Égypte. Mais contrairement à Disney, vous ne vous appropriez jamais une histoire qui existe, vous en créez une. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté d'adapter, de reprendre totalement une légende existante, un conte qui existe ?
Non, jamais. Les histoires que je lis, c'est des histoires que je mange Et ensuite, je suis fort, musclé grâce à ces histoires, mais je fais ce que je veux. Et quelquefois, ce seront des histoires complètement originales, mais souvent, il y a des idées qui flottent dans les contes traditionnels. Mais je n'ai aucune envie d'adapter. Je ne l'ai jamais eu.
D'où vient ce goût pour les contes? Pourquoi retrouve-t-on ce motif comme ça du conte dans toute votre œuvre?
Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais je pense que c'est un très bon système. Parce que je fais deux choses. Je dis des choses que j'ai envie de dire. Mais je les dis d'une jolie manière. Je veux, c'est un peu prétentieux, un peu instruire, mais je veux aussi donner du plaisir. Et même un plaisir léger, superficiel, faire quelque chose de très joli, et faire un film qui pendant une heure et demie donne du plaisir, c'est déjà ça. Et avec le conte de fées, je ne fais que des jolies choses. Même quand je parle de choses terribles, je peux le dire d'une manière jolie, et ça me plaît. Et en plus, c'est aussi un cheval de Troie. Et les gens ne se méfient pas, oh, c'est qu'un conte de fées. Et en particulier pour les adultes, je leur rentre dedans parce qu'ils oublient leurs armures et leurs boucliers, comme c'est un film pour enfants. Et ils ne se défendent pas et je les ai. Parce que c'est les adultes que je fais pleurer.
Après Princesse, Princesse vient Dragon et Princesse, une série télévisée qui sera diffusée en salle sous le titre Les Contes de la Nuit. Et Michel Oslo, à ce moment-là, vous abandonnez la technique des papiers découpés pour l'animation numérique. Pourquoi ?
Alors, donc, j'ai continué à faire de la silhouette noire parce que j'avais vu que c'était très beau, très facile et pas cher. Parce que quel que soit le succès ou l'époque, c'est bien de ne pas être cher, et comme ça on y arrive. Ouais. Disons qu'avec l'argent que j'avais, au lieu de faire 5 histoires, j'en ai fait 10, parce que c'était de la silhouette noire. Et j'avais, quelquefois je dis aux enfants, bon, quand j'ai fait les premiers, j'étais vraiment inconnu et pauvre, et maintenant que je suis riche et célèbre, je continue quand même. Mais je suis ni riche, ni célèbre, et ça me va comme ça. Kirikou est connu, moi pas, c'est ce qu'il me faut. Mais maintenant que je n'avais plus ces problèmes d'argent, j'ai voulu y revenir, parce que c'est pur, c'est extrême, c'est une nuit magique où tout peut arriver, et c'est parfait pour les contes. Mais comme je sortais de faire Azur et Asmar tout à l'ordinateur 3D, je me disais, il y a quand même des possibilités intéressantes. Je vais transposer la technique à l'ordinateur, mais j'ai apporté aux animateurs informaticiens les petits pantins de princes et princesses, et je les ai agités devant leur nez, et je leur ai dit, on fait aussi simple que ça. Aussi simple. C'est du rap-la-pla, et on ne triche pas. On n'a pas honte que ce soit simple et rap-la-pla. Et on y arrivait, on est arrivé à faire en effet quelque chose de joli avec un budget limité, mais qui me suffisait bien. On a rajouté quelque chose que je ne pouvais pas avoir avec les ampoules derrière un papier canson, l'image numérique où on a accès à toutes les valeurs, toutes les nuances, toutes les couleurs, toutes les matières, tous les collages que je ne pouvais pas atteindre avec mon fond transparent. Si je mettais des collages, c'était noir. Si je mettais de la gouache, c'était noir. Donc je n'avais droit qu'à une épaisseur d'aquarelle. Et c'est quand même assez difficile de faire des décors avec juste une épaisseur d'aquarelle. Et avec Dragons et Princesses, chaque décor était une orgie.
Je confirme. Michel Oslo, nous allons revenir un petit peu en arrière. Après le premier Kirikou, vous reprenez votre bâton de pèlerin pour vendre un nouveau projet invendable, c'est vous qui le dites. Azur et Asmar, de mon point de vue, votre chef-d'œuvre. En quoi ce film était-il invendable ?
Il n'a pas été invendable longtemps.
Hein. Ah.
Mais il était un peu invendable parce que c'était un film bilingue français-arabe. Et peut-être je célébrais entre autres choses, l'assimilation arabo-musulmane du Moyen-Âge, qui était une civilisation ouverte et brillante, dont j'étais conscient, par diverses rencontres miraculeuses. J'avais envie d'en parler, mais non, ça a été accepté très vite. La télévision a dit non, c'est pas une très bonne idée de parler arabe dans un film populaire. Et je dis si, ça fait partie du film. Et au bout d'un moment, ils ont dit oui, bon, on va sous-titrer et les codes je rencontre pendant peut-être. J'ai dit non, on ne sous-titrera pas. L'idée, c'est de ne pas sous-titrer, d'avoir deux vraies langues et une langue que la majorité du public comprend bien et une langue que la majorité du public ne comprend pas. C'est un film sur les différences et quelquefois sur les incompréhensions. Et c'est très bien qu'on ne comprenne pas. Mais c'est très bien aussi qu'on comprenne cette langue particulière parce qu'elle était le ciment entre des civilisations brillantes de tout l'Orient. Donc là, il y a eu une résistance. Et puis, je sortais du succès de Kirikou et j'ai pu dire plus ou moins, c'est à prendre ou à laisser. Mmh. Et voilà, on a pris. Oui. Et après, il n'y a plus le moindre problème. Ça n'a été que du plaisir tout le temps.
Comment vous est venue alors cette idée d'une rencontre, Michel Oslo, entre les deux rives de la Méditerranée, de l'Occident et de l'Orient au Moyen-Âge? Pourquoi cette idée, cette histoire?
Je me suis donné une mission très austère, ici et maintenant. Est-ce qu'on va s'entendre entre gens différents, âge différent, sexe différent, langue différente, religion différente? J'avais d'abord pensé à la guerre, mais même en dessin animé, je ne peux pas donner une guerre. Et j'ai ensuite pensé à l'animosité qu'on trouve en France entre différents groupes, et j'ai voulu traiter de ça. Et les étrangers en France, enfin les émigrés en France, viennent plutôt du Maghreb, donc je me suis dit, je vais traiter du Maghreb, même si je préfère la Perse, qui est une civilisation qui me fascine, ou la Turquie, qui a des décors sensationnels, des costumes sensationnels. Mais en tant que Français, c'était normal, c'était juste que je parle du Maghreb. Et parlant du Maghreb, je me suis dit, ah oui, mais là, il y a un supplément gratuit, une civilisation, des beautés à montrer. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais le point de départ est très austère.
Mmh. Et là, Michel Oslo, comme avec Kirikou, encore à nouveau les seins nus. Ceux de la femme qui allaite pendant quelques secondes à l'écran Azur et Asmar dans une magnifique scène suscite des réactions. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment encore compliqué de votre vie?
C'est vraiment ça a été une surprise. On a montré ce film à Cannes et deux journalistes américains m'ont interrogé. Ils ne se connaissaient pas, ce n'était pas le même jour. Et tous les deux m'ont demandé, est-ce que vous accepteriez de couper la scène d'introduction pour pouvoir être distribué aux États-Unis? Mais je n'ai pas compris. Je pensais avoir fait un film parfait pour les États-Unis. Tout le monde est habillé, bien habillé. Et puis non, le film commence par une nourrice qui donne la tétée à un petit enfant. Et il considérait que c'était une chose à couper pour être montré aux États-Unis. Et l'homme a même demandé si c'était un défi de la France à l'Amérique. Mais je n'y pensais pas. Le film commence très doucement, on entend la nourrice qui chantonne très doucement, et puis on voit la scène. Alors, je découvre que je suis indécrottable. Non seulement je montre des seins, mais des seins en activité. Comment voulez-vous que je sorte aux États-Unis?
Maudit français. Et ce film-là, Michel Oslo, Azur et Asmar, est-ce que vous avez pu le fabriquer entièrement en France? Comme vous le souhaitiez.
Alors là, c'est aussi le plaisir d'avoir du succès, hein, d'être riche et célèbre pendant un an. Kirikou, donc je l'ai fait dans 5 pays, et c'était épuisant. Et j'ai dit, à partir de maintenant, je travaille à Paris, et tout le monde est autour de moi. C'est ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça qu'on a fait du bon travail, et qu'on était contents tous les jours. Là, c'est le bonheur de la réussite, qui va encore se prolonger, mais je sens bien que ça capote.
Ça devient plus compliqué. Azur et Asmar, c'est 1h30 d'enchantement visuel. C'est le fait d'avoir plus de moyens, Michel Oslo, qui vous a permis de faire un film si beau. Les autres aussi sont beaux.
Oui,
celui-ci, voilà.
Je suis obligé de dire oui. J'espère avoir fait aussi de la beauté quand j'étais pauvre. Mais c'est la première fois, et apparemment la dernière fois, où j'ai eu le droit de faire du luxe. On a commencé beau et on a essayé de faire ensuite un peu plus beau, puis un peu plus beau, un peu plus beau, un peu plus beau. Et jusqu'à la fin, on a rajouté des raffinements qui se voient pas tout de suite. Mais par exemple, tout le palais de la fée scintille très doucement, très légèrement. On le voit pas, mais rien n'est fixe. Il y a toujours de la nacre qui bouge un peu. Le placement des étoiles, tout ça est fait à la main. C'est... des étoiles autour, pas sur les bijoux, il y en a aussi sur les bijoux, mais autour, et qui fait que c'est plus féerique. Là, l'argent m'a été utile, j'en ai eu, j'aurais accepté 1 million d'euros supplémentaires sans discuter. voilà, mais je crois que c'est fini.
Non. Pour la première fois pour Azur et Asmar, vous utilisiez la 3D. Est-ce qu'elle... Vous parlez de ce type de raffinement, ça venait de la 3D? Qu'est-ce que vous apportez cette 3D pour la première fois?
Le raffinement vient des personnes qui ont fait le film et pas de l'ordinateur.
Pas des techniques.
Mais la 3D m'a bien intéressé. Je me suis bien entendu avec les gens. On parlait quand même le même langage. Elle m'a permis de faire des choses que je ne pouvais pas faire en dessin. Par exemple, des bijoux extrêmes et des broderies sur les costumes. Ça, je ne pouvais pas le faire en dessin animé. J'ai aussi fait de la sculpture du temps de mes études d'art, et ça me plaisait beaucoup. Et la 3D, c'est de la sculpture à l'intérieur de l'ordinateur. Et une fois qu'on a fait un beau visage, il est beau tout le temps. Et on peut le voir de n'importe quel côté. Quand c'est en dessin, au bout d'un moment, c'est un peu tordu. Et là, ça l'est jamais. Et je me rappelle une projection au Maroc devant des enfants qui savaient pas se tenir au cinéma, et c'était très gai, parce que chaque fois qu'ils étaient contents, ils applaudissaient. En général, c'était quand le héros faisait un truc vachement bien. Et là, à certains moments, ils ont applaudi alors qu'il se passait rien. Mais c'était beau. C'est quand Azur le blond arrive dans un patio dans le palais de la princesse. Bon, il débouche, des portes d'argent se referment derrière lui, des pétales de rose tombent sur du marbre blanc, et il y a un labyrinthe d'eau claire taillée dans le marbre. Il lève la tête et il regarde autour de lui, et à ce moment-là, les enfants ont applaudi. Mmh. Ça m'a fait tellement de bien.
Ouais. Mmh. Applaudi devant la beauté, comme ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas en France.
Et ce visage qui bougeait très lentement et qui se levait, on pouvait le faire qu'en 3D. Mmh. On pouvait le faire aussi en marionnette, mais en vraie marionnette.
D'accord.
Mais ça, je ne l'ai pas fait.
Michel Oslo, Azur et Asmar a triomphé à Cannes devant un public d'enfants, ce qui est exceptionnel, des enfants invités au festival, et devant des professionnels. 2 millions de spectateurs l'ont vu en France. Comment avez-vous vécu ce nouveau succès, et s'est-il prolongé en DVD et dans les pays étrangers?
Le succès, je le vis très bien.
Pas de difficulté.
On a fait aussi de très beaux livres, mais tous mes films sont accompagnés de beaux livres, et cela a été particulièrement beau. Mais le succès à l'étranger a été moindre que celui de Kirikou. Ça semblait être de plus en plus difficile de se vendre à l'étranger. Toutes les places sont prises par les films américains. Il semble qu'il y ait vraiment qu'on nous laisse très peu de place. Mmh. Mais c'est aussi un film qui s'est vendu partout.
Ouais.
Mmh. Et de temps en temps, j'ai des retours de personnes qui m'écrivent. C'est aussi un film qui a donné de la dignité à des gens. Kirikou et Azur Asmar, c'était aussi pour que des gens soient fiers de ce qu'ils étaient. Et le public arabophone l'a beaucoup apprécié, alors que je n'étais pas sûr qu'il l'apprécie.
Et prolongement inattendu, Michel Oslo, vous avez réalisé l'animatique d'une suite imaginée par des enfants de Beyrouth. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure, ce post-scriptum ?
Oui, tous mes films me rapportent toutes sortes d'histoires extraordinaires et de retours. Et là, il s'agit d'une enseignante qui est à Beyrouth, qui a proposé à ses enfants d'écrire une suite à Azur et Asmar. Ils ont écrit une suite et elle s'est dit, ça, si je trouvais l'adresse de Michel Oslo, ça serait bien que je lui envoie ses écrits. Et puis elle s'est rajoutée dans la tête, mais d'abord l'adresse je ne vais jamais la trouver, et si jamais elle la trouvait, Michel Oslo ne me répondrait jamais. Elle a trouvé l'adresse, j'ai répondu et j'ai fait un film. Et un film qui était impossible à faire. Parce que c'était une petite suite d'une, je sais pas, 10-15 minutes à Azur Asmar qui n'avait aucun sens s'il n'y avait pas le film. Donc on ne pouvait pas le montrer et on ne pouvait pas le produire non plus parce que Azur Asmar, c'est trop cher. Ça se paye à la seconde et on n'avait pas de quoi s'offrir 15 minutes supplémentaires de Azur Asmar. On l'a produit, on l'a distribué. On l'a produit en le faisant sous forme d'animatique, c'est-à-dire le scénario image avec la bande dessinée, des dessins fixes qui se succèdent, mais on voit l'histoire en noir et blanc, pas en couleur. J'ai demandé aux comédiens de revenir gratuitement pour jouer les dialogues. Ils l'ont fait. J'ai demandé à Gabriel Yared de réécrire une musique gratuitement pour les enfants de Beyrouth. Il l'a fait. Et puis, j'ai géré un tournage et écrit des dialogues. Et une fois qu'il était fait, on l'a mis sur un DVD de mes anciens films. Et le passé avec mes anciens films. Et puis aussi le présent en faisant une vidéo pour Björk que j'ai mis là. Et le futur, une petite histoire inventée par des enfants de Beyrouth. Avec une idée de pardon extraordinaire, ils l'ont inventé au moment où ils risquaient leur vie en allant à l'école, à cause des voitures piégées. Voilà, on a réussi, et ça se trouve sur un DVD.
Voilà, qui s'appelle « Les trésors de Michel Oslo ». Très beau titre. Merci beaucoup Michel Oslo.
Bonsoir Corinne.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Corinne Renoux-Nativelle avec Michel Oslo. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.